BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bonjour et bienvenue dans ce programme BFM Stratégie, réalisé avec le partenariat du BCG, Boston Consulting Group. On va parler d'Ormuz. Alors Ormuz, ça y est, je pense que vous savez tous le situer sur la carte du monde. Et on va parler de l'Europe face au choc énergétique, parce que depuis trois mois, voilà, on en parle régulièrement ici même sur nos antennes, le prix du plein d'essence a explosé, conséquence directe donc de cette crise. Alors, est-ce qu'il faut craindre un choc pétrolier durable? Quel scénario se dessine pour les prochains mois? Comment les entreprises peuvent-elles se préparer? C'est là les questions auxquelles on va essayer de répondre avec nos deux invités. François Thiby, bonjour François.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé senior au BCG, expert du marché énergie. Et avec nous Thomas Giraud, bonjour Thomas.
Bonjour.
Directeur associé au BCG, membre du centre d'expertise énergie. François, je disais, le prix du pétrole a connu des mouvements impressionnants. Il valait 72$ fin février, il a dépassé les 126$ en avril, avant de redescendre partiellement. Alors évidemment, ça touche jusqu'aux citoyens, ouais. Puisqu'on est tous nombreux à avoir... une voiture et pas encore tous électriques. Comment on explique cette flambée des prix? Est-ce que voilà, juste c'est juste la guerre? Enfin, c'est ces manœuvres.
Alors, c'est surtout en fait la fermeture effectivement du détroit d'Ormuz. En fermant le détroit, on a perdu environ 10% de la capacité de production de pétrole et 20% de la production de gaz. 10% du pétrole, ça représente 8 fois la consommation de la France chaque jour. Et donc du coup, on a d'un côté enlevé une partie de la production importante. Et de l'autre côté, on a une consommation qui est en fait très inélastique. Oui. Les gens qui utilisent leur véhicule, comme vous le disiez Frédéric, quand le prix du pétrole est plus cher, ils ont quand même besoin de leur véhicule. Oui. Donc en fait, on a cette demande très inélastique, cette offre qui a disparu, qui fait monter ce prix du pétrole.
Parce qu'on n'a pas encore, juste pour bien comprendre, on n'a pas encore, comme on a de la fibre optique qui passe un peu partout, oui. On n'a pas de grand pipeline entre le Moyen-Orient. Enfin, il y en a, mais on n'a pas encore
exactement.
Voilà, le bateau reste quand même, enfin, ces grands pétroliers.
Il y a un léger bypass par deux pipelines qui permettent d'évacuer quand même une partie de la production de pétrole brut. Oui. Par contre, pour le gaz, par exemple, il n'y a pas d'alternative.
D'accord.
Aujourd'hui, en tout cas. Ça sera peut-être une des conséquences du conflit, de réinventer ces flux-là. Et donc, du coup, on a ce choc de destruction, d'effacement de l'offre, avec une demande assez inélastique. Et de l'autre côté, ça induit forcément une augmentation des prix pour équilibrer le tout. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cet ajustement, en fait, de la demande, il s'est fait surtout en Asie.
Ah oui.
Où les gens sont beaucoup plus sensibles au prix des matières pétrolières. Et donc, du coup, on a entendu beaucoup ces histoires de restaurants en Inde ou aux Philippines qui ont été obligés de fermer parce que les gens, les propriétaires de ces restaurants n'arrivaient plus à acheter le butane qui était nécessaire à leurs opérations. Donc, on est bien dans cette logique de destruction d'une partie de la demande pour ajuster le marché. Mais néanmoins, pour les entreprises en Europe, on a quand même une hausse de prix et du coup des tensions,
ouais, des marges
économiques, bien évidemment.
Thomas, comment les entreprises françaises justement sont-elles impactées par cette crise et puis, comparées à leurs voisins européens?
Tout d'abord, il faut bien voir l'aspect global de la situation. Avant, on était dans un monde où on avait un approvisionnement de gaz qui venait majoritairement de Russie. Après la crise ukrainienne, on est rentré dans une situation où on a commencé à importer du gaz naturel liquéfié, alors pas seulement du Moyen-Orient, mais de nombreux marchés.
Donc là, par bateau.
Par bateau. Et comme l'expliquait François avant, environ 20% de cette capacité aujourd'hui n'est pas disponible. Donc ça a un impact immédiat tout d'abord sur le prix du gaz, et ça a aussi un impact sur le prix de l'électricité, parce qu'une partie de l'électricité est générée dans certains pays sur une base de gaz.
D'accord.
Donc c'est par exemple le cas sur certains voisins européens, l'Italie, l'Allemagne ou encore l'Angleterre. Donc, cette séparation du prix du gaz et de l'électricité, elle est plus ou moins forte. Et quand on regarde le marché français, on a la chance d'avoir un parc nucléaire important. Donc, ce parc nucléaire ne nous protège pas, bien entendu, de l'aspect augmentation du prix du gaz, mais nous protège en partie de l'augmentation des prix de l'électricité. Donc, on a un amortisseur côté français. Oui. C'est pas un pare-feu parfait, mais c'est un amortisseur.
On est un peu moins impacté donc, que des pays comme l'Allemagne ou d'autres.
Complètement sur cette partie-là. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la compétitivité des entreprises? Le coût de l'énergie augmente malgré tout, néanmoins dans des proportions différentes. Alors, c'est surtout vrai pour des entreprises du secteur de l'acier. C'est aussi vrai pour les verriers notamment. Donc, ça signifie que l'on a un impact un peu plus réduit en France. Par contre, quand on compare typiquement à des entreprises basées aux États-Unis, où le prix du gaz est environ 5 fois moins cher qu'il n'est aujourd'hui en Europe, il y a clairement un choc de compétitivité qui est en train de se produire. À court terme, c'est un sujet, mais si la situation devait perdurer, ça poserait des questions beaucoup plus fondamentales sur l'aspect industriel.
Et donc, oui, il n'y a pas de conséquences immédiates, c'est plus, c'est ça. On se projette plus sur mois, année.
Tout à fait, oui.
François, si le prix du alors est-ce que le prix du baril va continuer à augmenter? Enfin voilà, j'en ai pas non plus une boule de cristal, mais c'est quoi les différents scénarios?
Oui, c'est ça. Je préfère parler en termes de scénario parce que sinon, en termes de prévision du prix du baril. Il y a une phrase célèbre qui dit il faut pas parler du prix du baril et d'une date dans la même phrase.
Surtout quand on a Donald Trump à la tête des États-Unis. Exactement. Qui, selon un de ses tweets, peut faire tomber ou remonter ce prix.
Voilà, on l'a vu dans les dernières semaines d'ailleurs, suivant les actualités. Alors écoutez, je crois qu'il y a trois scénarios aujourd'hui. Alors, souvent dans les conflits, on dit il y a deux scénarios. Ça se calme, ou ça se résout, ou ça dure. Ici, je crois qu'on voit trois grands scénarios. Le premier, bien évidemment, c'est celui qu'on espère tous, c'est une résolution. Du conflit, avec une base d'accord qui convienne aux différentes parties et donc une reprise assez rapide des approvisionnements en pétrole, la réouverture du détroit d'Ormuz en premier lieu, et puis progressivement la remise en marche des installations qui ont dû être fermées.
Voire abîmées par des bombardements.
Alors, etc. Comme vous le pointez très justement, tout ne va pas pouvoir reprendre tout de suite parce qu'il y a eu des dégâts. Et on pense qu'il y a environ 8 mois pour retrouver 80% de la production. Et ensuite, il restera plusieurs années afin de retrouver 100% de la production initiale. Donc on est parti, même dans un scénario de résolution, pour un impact prix qui est quand même assez durable. Le deuxième scénario, c'est un scénario de nouvelle normalisation, de nouvelle normale. Un peu à l'instar de la Corée du Sud, Corée du Nord, où il n'y a jamais eu d'accord de paix, mais les deux parties, progressivement, ont stabilisé leurs relations. C'est malheureusement un scénario qui est encore ouvert aujourd'hui, puisqu'on ne voit pas immédiatement les parties se mettre d'accord sur les termes d'un échange ou d'une résolution. Et dans ce cas-là, on stabiliserait sans doute les prix au niveau actuel, avec des épisodes plus élevés quand tout d'un coup ça s'enflamme et puis après ça se recalme un petit peu. Le dernier scénario que personne ne souhaite, c'est celui d'une reprise majeure des hostilités. Où on aurait sans doute des impacts sur les prix beaucoup plus forts que ceux qu'on a connus aujourd'hui, puisque jusqu'à aujourd'hui, on a pu tempérer une partie des impacts par des mesures de relâche de stocks stratégiques, des mesures d'ajustement de consommation dans certains pays. Si on devait détruire cette capacité de production de manière plus durable, je pense qu'on irait vers des niveaux de prix qu'on n'a pas vus depuis très longtemps.
Quoi qu'il arrive, que ce soit ce conflit là au Moyen-Orient ou le conflit en Ukraine, les prix redescendront pas, resteront à niveau...
Non, comme on le disait à l'instant, en fait, dans tous les scénarios, il y a un renchérissement assez durable des prix de l'énergie, notamment parce que même si le conflit se résout, les coûts d'assurance et les coûts de financement dans cette région du monde ont durablement augmenté.
Alors Thomas, qu'est-ce qu'il faut craindre au niveau... Est-ce qu'on va avoir des problèmes de pénurie? C'est vrai qu'on est au mois de juin, beaucoup de Français vont prendre leur voiture, parce que ça reste cette grande transhumance en juillet, en août. Est-ce qu'on pourra partir en vacances ou surtout à quel prix?
Alors, la réponse rapide, a priori, oui. On l'espère tous en tout cas. Il faut voir sur la partie transport terrestre, donc voiture, essence, diesel. Aujourd'hui, on a quand même un outil européen d'approvisionnement qui est robuste. Oui. Donc, il n'y a pas de pénurie à attendre.
Crainte de pénurie, oui.
Il pourrait y avoir, par moment, et c'était le cas notamment en 2022, par exemple, des situations où localement, parce que des personnes veulent d'un seul coup avoir leur réservoir plein, des situations de grande queue aux stations d'essence, etc. Ça pourrait arriver très localement, mais c'est pas le grand risque. Encore une fois, l'approvisionnement il est là, donc c'est plus des comportements qui pourraient amener à cette situation localement. Il y a la partie aérienne, où là il y a une question qui est un petit peu différente, où il y a eu quelques annulations de vols de manière très locale là encore, mais fondamentalement il n'y a pas d'inquiétude d'annulation massive et il n'y a pas eu d'annulation massive. Là où ça va plus être une question, c'est sur la partie gaz. Alors je pense après l'été là, on parle moyen terme.
Oui, parce qu'il faudra recommencer à se chauffer. Là on vit un épisode un peu chaud, mais il y a un moment en novembre, il faudra rallumer ces radiateurs.
Exactement, surtout après les chaleurs des derniers jours, je pense qu'on oublie un petit peu qu'il faudra se réchauffer à l'hiver prochain. On est dans une période où on remplit les réservoirs de gaz. Donc, on a un taux de remplissage aujourd'hui qui est d'environ 40%. C'est plus faible que l'an dernier. Donc, ça veut dire qu'on pourrait aborder l'hiver avec un niveau de stockage plus faible et donc un appareil, entre guillemets, de stockage gazier qui est un petit peu plus faible.
Et est-ce que les entreprises, justement, elles ont une façon de faire un peu tampon, de pouvoir gérer tout ça? Comment ça se passe?
Il n'y a malheureusement pas énormément de solutions qui permettent de faire ça. Donc, les entreprises sont plus dans une situation où elles subissent, entre guillemets, au moment où on parle.
Oui, il faut essayer de s'adapter au new normal, comme on le disait avec eux. avec François justement. Et puis, c'est peut-être le meilleur moyen. C'est vrai qu'on est tous, enfin tous ceux qui ont gardé parce qu'ils ont des trajets différents, des véhicules. Je parle pour les particuliers, des véhicules à moteur thermique, de se poser la question de passer à l'électrique. Donc tout le monde s'interroge, se réinterroge en tout cas sur la décarbonation de façon. Alors là, pour le coup, beaucoup plus active, non, François Thibault?
Alors tout à fait. On a vu les annonces gouvernementales des derniers jours. L'électrification, surtout dans le cadre de la situation française, moi dans la situation française, est un levier évident d'amélioration. L'électricité est peu chère en France, et donc du coup, basculer des usages thermiques sur des usages électriques, c'est bien évidemment une priorité pour les consommateurs, mais aussi pour le pays au sens large. C'est aussi une bonne chose dans la trajectoire net zéro qu'on espère retravailler, qui a été un peu perturbée ces derniers temps, mais qui reste un objectif collectif. Et c'est aussi un signal de continuer à renforcer les systèmes électriques des pays européens.
Donc cette crise justement. Alors oui, j'avais une autre question, Thomas. Est-ce que cette crise, elle va accélérer la transition énergétique? Parce que on a l'impression qu'on oublie un peu là ces éléments là.
Alors c'est une très bonne question. À court terme, il va y avoir une pression sur les budgets de nombreuses entreprises et de tous les acteurs qui contribuent au secteur de l'énergie. Donc à court terme, ça va pas être un effet immédiat. Néanmoins, à moyen terme, on pense que ça va avoir un effet relativement positif pour deux raisons. La première, c'est qu'on s'est tous rendu compte que les molécules venaient de nombreux endroits dans le monde. Il y a un aspect souveraineté énergétique. Et puis, il y a un deuxième élément qui va être aussi la compétitivité, l'aspect coût, puisque les sources d'énergie renouvelables peuvent redevenir plus compétitives face à des prix du gaz qui sont très élevés ou extrêmement élevés dans le long terme.
En conclusion, quelle leçon vous dégageriez de cette crise qui n'est pas terminée, mais déjà, au bout de ces quelques mois par rapport au conflit au Moyen-Orient, et puis si on regarde l'Ukraine un peu plus aussi.
Il va y avoir un besoin fort de réfléchir à la souveraineté énergétique, à l'indépendance énergétique.
Et ça, c'est le conseil à toutes les entreprises de regarder quand même.
Tout à fait, de garder quand même cet aspect de penser à la génération de l'énergie, mais aussi de manière un peu plus locale et un peu plus souveraine.
Et François, les leçons à tirer de...
On s'était dit tout à l'heure que l'énergie serait durablement plus chère, donc je pense que c'est aussi une invitation aux entreprises à réfléchir à comment optimiser leur approvisionnement énergétique, choisir les sources d'énergie de manière intelligente, diversifier aussi leur exposition autant que possible. Investissez dans l'énergie.
J'espère que vous avez bien écouté. Et pour suivre tous ces conseils, de toute façon, vous pouvez évidemment retrouver toutes ces émissions BFM Stratégie en replay. Merci à tous les deux. François Thibault, directeur associé senior au BCG, expert sur les marchés énergie. Et Thomas Giraud, directeur associé au BCG, membre du Centre d'expertise d'énergie. Merci à tous les deux, de nous avoir éclairés.
Merci.
C'est qu'on peut partir en vacances, mais c'est vrai qu'on aimerait que toutes ces crises, se stabilisent un peu et apaisent un peu le climat du moment. Merci, messieurs. À très bientôt pour un nouveau programme BFM Stratégie.
Merci.
BFM Stratégie sur BFM Business.